le journal présenté par Aurélie Kiffer. Bonsoir.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. L'Arabie Saoudite affirme avoir les preuves d'une agression iranienne. Les États-Unis annoncent un alourdissement des sanctions imposées à Téhéran. Nous irons à Washington dans un instant. Israël plongé dans l'incertitude à l'issue des élections législatives. Qui pourra former un gouvernement? La question reste entière. Pour atteindre ses objectifs climatiques, la France doit augmenter sa taxe carbone selon la Cour des comptes. Ça n'est pas prévu en 2020, répond le gouvernement. Analyse d'Anne-Laure Jumet. Enfin ce soir, nous vous invitons à un tour du monde des salles de cinéma avec le photographe Stéphane Zobitzer. L'Arabie Saoudite présente ses preuves. Le porte-parole du ministère de la Défense a dévoilé cet après-midi ce qui a été présenté comme des débris de drones et de missiles de croisière. Débris qui auraient été retrouvés après les attaques contre deux installations pétrolières. Pour Riyad, il ne fait aucun doute que les attaques provenaient du Nord et ont été parrainées par l'Iran. Le Royaume dit continuer d'enquêter sur le lieu exact de leur lancement. L'Iran continue de nier tout rôle dans ces attaques, mais les États-Unis ont d'ores et déjà annoncé le renforcement des sanctions à l'encontre de Téhéran. Grégory Phillips.
Oui, un durcissement substantiel, écrit Donald Trump sur Twitter, même si on ne connaît pas encore la nature de ces nouvelles sanctions et surtout qui elles vont viser. Le secrétariat américain au Trésor donnera sans doute des détails un peu plus tard. Mais en tout cas, le fait que l'administration Trump ordonne de nouvelles sanctions, c'est le signe que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on se contente de cela, de cette arme économique, financière que les États-Unis utilisent depuis un an et demi maintenant pour affaiblir le régime iranien. Vous savez que malgré parfois des déclarations un peu belliqueuses, Donald Trump ne veut pas d'un nouveau conflit armé, ni avec l'Iran, ni avec personne. Donc l'annonce de tout à l'heure semble démontrer que pour l'instant, encore une fois, la Maison-Blanche veut utiliser une arme beaucoup moins explosive qu'une éventuelle opération militaire.
Et alors, Grégory, Donald Trump a dépêché le secrétaire d'État américain Mike Pompeo en Arabie Saoudite pour discuter de ces attaques. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette rencontre avec le prince héritier Mohamed Ben Salman à Jeddah ?
Alors déjà, le patron de la diplomatie américaine est venu examiner les preuves dont vous parliez à l'instant, à savoir ces débris de missiles et de drones iraniens qui ont été exhibés par le ministère saoudien de la Défense. Aucun doute maintenant pour les Saoudiens, c'est bien l'Iran qui est derrière les attaques de samedi. Pour le chef de la diplomatie américaine, Pompeo, et pour ses services de renseignement, d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de doutes non plus là-dessus. Et puis surtout, le secrétaire d'État américain vient rencontrer le prince héritier pour étudier avec lui la réponse à apporter à cette agression, une réponse que les États-Unis veulent coordonner.
Et puis autre information du jour, Grégory, Donald Trump a choisi son nouveau conseiller à la sécurité nationale. C'est Robert O'Brien qui va succéder à John Bolton.
Oui, c'est important parce que le conseiller à la sécurité nationale, c'est un peu celui qui, à la Maison-Blanche, parle à l'oreille du président en matière de politique étrangère. Donc le nouveau conseiller de Trump, le quatrième en 2 ans et demi, s'appelle Robert O'Brien. Il était jusqu'ici envoyé spécial du président pour toutes les questions liées aux otages. Il travaillait au département d'État. On sait de lui qu'il appartient à la communauté religieuse des Mormons. On sait aussi que c'est un diplomate sérieux qui a obtenu des résultats ces derniers mois en faisant libérer, par exemple, des Américains détenus en Corée du Nord ou en Turquie. Donc quelqu'un dont le travail est reconnu et qui, dans les prochains jours, va, aux côtés de Trump, fixer la ligne de conduite des États-Unis dans cette crise iranienne.
Merci Grégory Phillips, en direct de Washington. Benjamin Netanyahou a annulé son déplacement prévu à l'Assemblée générale des Nations unies. Le Premier ministre israélien est en position très fragile au lendemain des élections législatives anticipées. Il espérait que le scrutin lui permettrait de se relancer politiquement. Or, les résultats sont très serrés, trop serrés pour y voir clair. Impossible à cette heure de savoir quelle coalition serait en mesure de former un gouvernement. La campagne très agressive menée par Benjamin Netanyahou n'a manifestement pas eu le succès escompté. Écoutez le reportage d'Omar Waman à Tel Aviv.
Dans cette ville de Tel Aviv, Benjamin Netanyahou n'a jamais vraiment été populaire. La population jeune vote plutôt à gauche, comme Daniela, 24 ans, étudiante aux Beaux-Arts, qui se réjouit de voir l'actuel Premier ministre en difficulté.
C'est bien, je pense qu'il aurait déjà dû quitter le pouvoir. Il était obsédé par la sécurité. Il ne se préoccupait que des religieux ou de ses soutiens. Il doit s'occuper de tout le monde.
Ici, on s'est habitué à voir Netanyahou au pouvoir, comme inamovible. Lim, 27 ans, gérant d'un petit café dans le centre-ville.
En fait, j'étais surpris par ces élections. J'étais persuadé que Bibi allait être réélu facilement. C'est une grosse surprise. Il a divisé les gens, divisé le pays. Aujourd'hui, les gens se détestent. Ils se haïssent.
Et malgré cette politique sécuritaire clivante, Benjamin Netanyahou dispose de quelques soutiens dans cette ville balnéaire. Pierre, un retraité.
Nous faisons partie des 20% qui ont voté pour Bibi à Tel Aviv. Oui, oui, oui. Là, pour cet épisode, je crains que ce soit fini. Oui.
Et pourtant, Netanyahou a tout fait pour l'emporter. Une campagne d'une violence inouïe, des attaques anti-arabes ou contre les partis de gauche.
En Espagne aussi, on entend des électeurs désabusés. 5 mois après les élections législatives de la fin avril, les partis politiques se sont révélés incapables de se mettre d'accord pour faire émerger une majorité et un gouvernement. Il va donc y avoir de nouvelles élections, le 4e en 4 ans. Reportage de Mathieu de Taillac dans les rues de Madrid.
Rencontre devant le Congrès des députés, l'équivalent espagnol de l'Assemblée nationale. Autant dire le lieu du crime, là où les partis politiques devraient négocier pour donner un gouvernement au pays. Là où, en réalité, chacun défile devant la presse pour accuser l'autre du blocage. Les électeurs, eux, ont beaucoup de mal à avaler. Pedro a garé son taxi devant un grand hôtel qui fait face au Parlement.
C'est un sacré foutoir ici. Personne ne se met d'accord avec personne. Ils devraient avoir honte. Ils ont tous leur intérêt. Il y en a qui pensent à leur fauteuil, d'autres qui veulent emmerder leurs ennemis. Et voilà comment on en arrive à de nouvelles élections.
À quelques mètres, c'est Pilar, femme de ménage, qui souligne un aspect qui agace beaucoup d'Espagnols.
Ils sont payés alors qu'ils ne travaillent pas, ils sont payés à ne rien faire. Moi, le jour où je ne travaille pas, c'est décompté de mon salaire, mais pas eux. Ils étaient tranquilles, en vacances, pendant que nous, les travailleurs, on est au plus mal.
Pedro et Pilar ont voté à gauche et envisagent aujourd'hui l'abstention. À en croire les témoignages de la rue, les petits calculs des politiques espagnols pourraient se retourner contre eux.
Lassitude aussi face au feuilleton du Brexit. Les responsables de l'Union européenne font part de leur agacement au Premier ministre Boris Johnson. Ils demandent aux Britanniques de ne pas faire semblant de négocier pour éviter un Brexit sans accord. Ce sera peut-être le choix du gouvernement du Royaume-Uni, déclare le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, mais ce ne sera jamais le choix de l'Union européenne. Et le négociateur en chef de l'Union pour le Brexit, Michel Barnier, met lui aussi en garde le gouvernement britannique.
Près de 3 ans après le référendum britannique, mesdames et messieurs, il ne s'agit certainement pas de faire semblant de négocier. Nous restons disponibles pour écouter toute proposition britannique, y travailler jour et nuit, dès l'instant où cette proposition apporterait du progrès. Les conséquences du Brexit ne sont pas théoriques. Moi, j'avais souvent entendu dire ici dans cet hémicycle qu'elles étaient innombrables et souvent sous-estimées sur le plan humain et social, sur le plan financier et budgétaire, sur le plan juridique et technique. Elles sont considérables. Je le dis à M. Zani qui n'est pas là, à M. Farage, vous devez dire la vérité. Et vous devrez rendre des comptes sur les conséquences du Brexit qui sont beaucoup plus graves, beaucoup plus nombreuses que vous voulez bien le dire.
Déclaration recueillie par Angélique Bouin et le chef de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn promet que si le Labour remporte les prochaines élections législatives en Grande-Bretagne, il organisera un référendum sur le Brexit. Mais il ne précise pas s'il fera à cette occasion campagne pour ou contre une sortie de l'Union européenne. Après les États-Unis, l'Inde s'attaque aux cigarettes électroniques. Une ordonnance passée par le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi interdit la production, l'import ou l'export, le transport, le stockage et la vente de cigarettes électroniques. Une mesure radicale et controversée qui vise, selon le parti au pouvoir, à lutter contre le tabagisme, en particulier chez les jeunes fumeurs. La correspondance d'Antoine Guinard à New Delhi.
Pour la ministre des Finances Nirmala Sitharam, cette mesure permettra d'éviter d'engendrer une nouvelle génération d'Indiens dépendants à la nicotine. La ministre a annoncé ce mercredi l'interdiction de la consommation, de la vente, de la distribution et de la production de cigarettes électroniques dans le pays. Madame Sitharam a affirmé vouloir mettre fin, je cite, à un effet de mode qui se propage chez les jeunes. Le gouvernement prévoit par ailleurs une peine allant jusqu'à 6 300 € d'amende et 3 ans de réclusion pour quiconque sera en possession d'une vapoteuse. Cette décision a toutefois été largement critiquée en Inde, notamment sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont dénoncé l'hypocrisie du parti au pouvoir, qui protège selon eux la puissante industrie indienne du tabac, qu'ils jugent par ailleurs beaucoup plus nuisible. Aucune marque de cigarette électronique indienne n'est encore présente sur le marché, ce qui explique par ailleurs ses soupçons. Cette décision majeure survient quelques jours après les déclarations du président américain Donald Trump sur sa volonté d'interdire les cigarettes électroniques aux États-Unis. Selon les autorités sanitaires américaines, de graves problèmes respiratoires liés au vapotage, qui ont provoqué dans certains cas la mort, se sont multipliés depuis un an dans le pays.
En Europe, la cigarette électronique est généralement soumise à la même législation que les cigarettes classiques, avec notamment l'interdiction à la vente pour les moins de 18 ans, l'interdiction d'utilisation dans les espaces publics et des restrictions à la publicité. Les tabacologues considèrent que le vapotage est une aide au sevrage efficace du moment que la cigarette électronique est correctement utilisée avec un produit aux normes européennes. Malgré une baisse des émissions de gaz à effet de serre en 2018, la France reste loin d'atteindre ses objectifs de réduction. C'est le constat fait par l'Observatoire Climat Énergie. Et de son côté, le Conseil des prélèvements obligatoires, un organisme rattaché à la Cour des comptes, estime que si la France veut rester dans les clous sur ce plan, elle n'a qu'une option, augmenter la taxe carbone et même l'élargir au secteur actuellement exempté. Bonsoir Anne-Laure Jumet.
Bonsoir.
Alors ça n'est pas du tout le chemin pris par le gouvernement. Aucune hausse de la taxe carbone n'est envisagé en 2020. Le mouvement des Gilets jaunes a durablement dissuadé l'exécutif de toucher à cette taxe.
Oui, difficile, hein, décidément, de reprendre la trajectoire de cette taxe carbone créée, on le rappelle, en 2014 sous François Hollande. C'est aujourd'hui beaucoup trop explosif. Rappelez-vous, décembre 2018, face au mouvement des Gilets jaunes, le Premier ministre Édouard Philippe annonce la suspension de la hausse prévue en 2019. Rebelote donc en 2020, on vient de l'apprendre donc dans la journée, pour faire évoluer les comportements. La hausse de la taxe carbone peut être un bon outil. Voilà ce qu'on entend dans les rangs de la majorité. Mais aujourd'hui, elle n'est pas acceptée par l'opinion publique. Donc, on ne peut la réintroduire. Il faut dire que cette contribution climat-énergie ne finance pas à 100% des mesures environnementales. En 2016, par exemple, elle a ainsi contribué à baisser le coût du travail pour les entreprises. Ça n'est pas lisible. Alors aujourd'hui, le gouvernement renvoie la balle à la future convention citoyenne pour le climat, formée de 150 personnes tirées au sort. Elle doit commencer ses travaux le mois prochain. À elle, dit l'exécutif, de formuler des propositions. Et peut-être, certains l'espèrent, notamment au ministère de l'Environnement, peut-être cette convention décidera-t-elle de réintroduire cette hausse, mais avec une meilleure affectation des recettes. En tout cas, ce sera un sujet pour 2021 et au-delà. Dans l'intervalle, ce sont les mesures incitatives qui sont mises en avant par le gouvernement, comme la prime à la conversion pour changer de voiture ou encore le chèque énergie.
Anne-Laure Jumet. L'association Respire alerte sur la pollution de l'air dans le métro et le RER parisien. Selon une étude menée par une équipe du CNRS, la pollution atteint jusqu'à 800 millions de particules par mètre cube, soit 10 fois plus qu'un pic de pollution. Écoutez Franck-Olivier Taureau, secrétaire général de Respire, association nationale pour la prévention et l'amélioration de la qualité de l'air.
La réalité de cette pollution, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de particules fines dans le métro que dans l'air extérieur, l'air qu'on respire tous les jours à Paris ou dans les grandes villes de France. On atteint parfois 10 fois un pic de pollution. Donc, c'est-à-dire, normalement, un pic de pollution, vous risquez pour votre santé. En fait, là où c'est grave, c'est pour les salariés. Les salariés qui travaillent toute la journée dans le métro et ceux qui travaillent aussi toute la nuit dans le métro, enfin la maintenance, puisqu'il y a un problème supplémentaire qui vient s'ajouter, c'est que la RATP et la SNCF utilisent encore beaucoup de machines thermiques pour faire les travaux. Donc, c'est-à-dire des machines qui fonctionnent au diesel, qui polluent énormément. Cette fumée-là, elle ne s'en va pas, elle reste après en suspension dans les couloirs du métro.
Donc, comme voyageur, j'allais dire, on n'est pas si exposé que ça.
On est exposé évidemment, mais on est exposé de toute façon quand on sort, on est exposé dans sa voiture, on est toujours exposé, quoi qu'il arrive. Effectivement, c'est la durée d'exposition qui fait la dangerosité.
Qu'est-ce que vous préconisez, vous ? Qu'est-ce qui existe pour protéger les usagers, les salariés du métro ?
Alors déjà, ce qu'on propose à la RATP et à la SNCF, c'est qu'ils mettent en place des vraies mesures de contrôle. On mesure bien entendu les particules fines, parce que ça, on a tendance à les oublier. Et comme en général, on ne les mesure pas, on dit qu'il n'y en a pas. Après, on demande aussi à la RATP et à la SNCF de supprimer les engins thermiques pour faire les travaux la nuit. Donc, on passe à des engins électriques. Évidemment, ça a un coût. Une surveillance renforcée pour justement aider les salariés et pour prévenir tout le monde de cette pollution.
Franck-Olivier Taureau au micro de Véronique Rebérotte. Et à 18h20 sur France Culture, dans le temps du débat, c'est de pesticides qu'il sera question. La demande d'asile ne cesse de baisser dans les pays de l'OCDE, y compris aux États-Unis, note un rapport de l'OCDE. Deux exceptions, la France et l'Espagne, qui ont connu les plus fortes progressions en 2018. La question de l'asile devrait justement prendre une part prépondérante dans le débat parlementaire sur l'immigration, prévu les 30 septembre et 2 octobre. L'occasion de poser un constat de manière sereine et calme, assure la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye.
Notre pays est confronté à l'échelle du monde, dans les années à venir, à des mouvements sans doute massifs de population à l'échelle de la planète, parce que le réchauffement climatique aura des conséquences importantes, parce que des tensions géopolitiques, parfois des tensions militaires peuvent exister, y compris dans des géographies qui sont proches de la nôtre qui sont proches du continent européen et singulièrement de la France. Et donc, il est nécessaire que notre pays porte une réflexion qui doit être par ailleurs actualisée année après année sur ces sujets migratoires. Donc il n'y a pas, en l'occurrence, de tabou à discuter de ces sujets migratoires, tant les questions seront prégnantes dans les années à venir. Et nous avons eu l'occasion de voir dans les années précédentes que des mouvements migratoires importants du fait de conflits au Moyen-Orient pouvaient profondément déstabiliser des pays, et l'Allemagne en est un exemple édifiant.
Alors, une précision, selon les chiffres de l'OCDE, en Allemagne, il y a eu recul du nombre de demandes d'asile, une baisse de 36 000 demandes en 2018. Puisque c'est mercredi, parlons maintenant cinéma, ou plus exactement salle de cinéma. Symbole culturel, architectural ou sociétal, c'est un lieu souvent empreint d'histoire. Depuis 2003, le photographe documentaire Stéphane Zobitzer se passionne pour le sujet. Ciné-palace ou simple chaise en plastique alignée en plein air, plafond étoilé ou peinture écaillée, à travers ses photos, il dresse un inventaire forcément incomplet de ce patrimoine que beaucoup considèrent en sursis. Vous l'avez rencontré, Éric Chavroux.
Oui, au cœur du Marais à Paris, où il expose en ce moment des images de ses derniers voyages, comme au Maroc, la façade du mythique cinéma Goya, inauguré dans les années 40.
Cette salle, elle est, moi je trouve qu'architecturalement c'est absolument extraordinaire. Et l'immeuble a été construit, donc il y a des habitations, mais il y a aussi la salle de cinéma qui est là et qui a été conçue dès la construction en fait de ce bâtiment-là. On est en centre-ville de Tanger. D'ailleurs, là, vous voyez, il y a un cinéma Roxy là, et donc c'était la rue des cinémas.
Le Rialto, le Debussy, le Lynx, le Colorado et tant d'autres, fermés ou parfois encore en activité, Stéphane Zobitzer a immortalisé des salles du monde entier à la chambre photographique avec de longs temps de pause. D'abord au Burkina dans un cinéma en plein air, puis en Inde, en Californie, au Brésil, en Roumanie ou sur la rive sud de la Méditerranée.
Ces salles, quand même, elles sont tellement référencées à un quartier, c'est-à-dire que la salle donne aussi l'âme, donne aussi le nom parfois du quartier. Même quand la salle a été détruite, on appelle le quartier encore par le nom de sa salle. Donc il y a quand même quelque chose de très fort encore dans ces pays, qui est peut-être même plus fort que ce qu'on peut trouver en France.
Salles d'inspiration égyptienne, baroque ou art déco, des modes ont rythmé la vie de ces temples du 7e art. Les architectes soignaient dès le trottoir ces impressionnants monuments, allant jusqu'à projeter les spectateurs dans les étoiles.
Il y a les salles atmosphériques aussi, qu'on peut retrouver aussi dans la rive sud de la Méditerranée. Les salles atmosphériques, c'est celles qui ont des petites lumières qui ressemblent à des étoiles pour rappeler, en fait, pour que le spectateur soit totalement dans l'univers, en fait, et qu'il voit la projection sous le ciel étoilé, même si la salle est totalement couverte et que tout ça est du stuc et du faux. Et je me considère pas suffisamment spécialiste, mais quelqu'un de très spécialiste des architectures, je pense que même pourrait dire à l'année près, par exemple, quand est-ce qu'une telle salle a été construite, parce qu'elle respecte, elle est dans cette telle mode, quoi.
En privilégiant des espaces déserts, le photographe laisse chacun s'interroger à l'heure d'Internet et des paraboles sur ce que le destin de ces lieux peut signifier, comme aux États-Unis.
Certaines ont gardé totalement leur côté palace, mais il y a beaucoup de palaces aussi qui sont totalement à l'abandon. Après, très souvent, il y a les ciné-palaces comme ça qui projettent encore des films, mais qui se sont transformés en salles de spectacle. C'est compliqué aussi de faire ramener 2500 personnes sur un film. Tout le défi, c'est comment refaire venir du public dans ces salles qui sont parfois magnifiques, mais qui sont aussi parfois très vétustes. Et c'est vrai que faut faire des animations. Il y a toute une façon. En fait, on peut plus se contenter, comme auparavant, de projeter un film et puis d'avoir sa salle pleine. Même en France, c'est pas possible. Donc, je pense qu'évidemment qu'une salle est obligée de devenir encore plus sociale qu'elle l'était auparavant.
Quant aux propriétaires et employés de ces salles, ils y voient eux souvent un patrimoine en sursis, mais Stéphane Zobitzer, qui se garde de tirer de grandes conclusions, a été surpris du nombre d'écrans encore en activité en Algérie ou de certaines mobilisations, notamment de Libanais.
Il suffit par exemple qu'il y a des petites associations au fin fond du Liban qui arrivent à rouvrir une salle, par exemple à Tyr. Donc, même si aujourd'hui on va beaucoup moins au cinéma qu'auparavant, il y a quand même un attachement très symbolique et très affectif à la salle de cinéma.
Stéphane Zobitzer, qui expose à la Galerie Cinéma à Paris jusqu'à samedi, mais vous pouvez avoir dès à présent un aperçu de ce travail sur franceculture.fr. Merci Eric Chavroux. Demain vendredi, jeudi, il y aura encore quelques orages dans le sud de la France, mais dans l'ensemble, la journée sera ensoleillée. Les températures minimales seront comprises entre 6 et 11 degrés au nord, entre 14 et 20 plus au sud. L'après-midi, il fera 18 à 24 au nord de la Seine, 22 à 29 ailleurs. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.